Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. Toutes nos pensées vont aux familles des soldats. Les deux ex-otages français libérés par un commando des forces spéciales au Burkina Faso ont été reçus ce matin au palais présidentiel de Ouagadougou. Dans leur toute première déclaration, ils ont salué la mémoire des deux soldats qui ont perdu la vie pour les libérer de cet enfer. Ils seront accueillis en fin d'après-midi sur la base aérienne de Villacoublay par le président de la République qui présidera ensuite mardi un hommage national aux deux militaires. Une loi d'exception pour Notre-Dame, c'est une première. Le texte adopté par les députés doit permettre d'aller vite dans la reconstruction que le président de la République veut conclure en 5 ans. Il prévoit notamment un certain nombre de dérogations aux règles de l'urbanisme. Invité de ce journal, le député Les Républicains Gilles Carré, d'accord sur la méthode. Dans ce journal également, Nantes et Lyon, point de ralliement des Gilets jaunes pour un 26e samedi de manifestation. Des barrières de protection et des trottinettes électriques en pagaille récupérées dans le vieux port à Marseille pour la journée annuelle de nettoyage. Une compilation de dessins de presse contre les fake news, le conseil week-end du service culture de France Inter et puis la météo toujours humide dans un grand quart nord-est incluant le bassin parisien, des températures inférieures aux moyennes. La plus grande précaution doit être prise dans les régions du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, réitère ses appels à la prudence en direction des touristes. Au lendemain de la libération des deux otages français enlevés au Bénin la semaine dernière et retenus au Burkina Faso, opération qui s'est soldée par la mort de deux soldats français, le ministre rappelle que cette zone était classée rouge par le Quai d'Orsay. On va y revenir. Les deux soldats membres du commando Hubert, unité d'élite de la marine, avaient 33 et 28 ans. Le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello ont donné leur vie pour en libérer d'autres, a écrit le chef de l'État sur Twitter. Emmanuel Macron qui présidera donc mardi aux Invalides un hommage national après avoir accueilli ce soir les deux ex-otages sur la base aérienne de Villacoublay. Les deux hommes étaient ce matin reçus à Ouagadougou par le président burkinabé Rochmar Christian Caboret et leur toute première déclaration s'adressait bien sûr aux familles des soldats. Fanny Noirot.
Ils sont arrivés vêtus d'un t-shirt noir, d'un pantalon de jogging et de tongs aux pieds. Avec eux était présente également l'ex-otage sud-coréenne, mais pas la ressortissante américaine. Les visages étaient serrés. L'entretien avec le chef d'État burkinabé a duré une vingtaine de minutes. À la sortie, les mains tremblantes, la voix teintée d'émotion, Laurent Lassimouillas a pris la parole. Ses premiers mots ont été adressés aux soldats français.
Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. On voulait présenter nos condoléances tout de suite à ces familles parce que nos pensées, elles sont ambivalentes par rapport à tout ce qui nous arrive. Une pensée aussi à notre chauffeur guide béninois qui a perdu la vie au tout début de notre enlèvement et ça a été très difficile aussi.
Ils ont ensuite remercié les autorités burkinabées qui ont participé à l'opération militaire, une coopération nécessaire selon le ministre des Affaires étrangères burkinabé Alpha Barry.
Les forces françaises, qui sont des forces alliées, peuvent mener donc des opérations dans notre pays en collaboration et en coopération avec les forces de défense et de sécurité burkinabé. Et ça a été donc le cas dans cette opération où il y a eu la participation d'une quinzaine de militaires burkinabés.
Les otages sont désormais en route vers l'aéroport avant de rejoindre la France en fin de journée. À Ouagadougou, Fanny Noirot, France Inter.
Ce qu'on retient de ce nouvel épisode de la guerre contre les djihadistes, c'est qu'elle s'étend vers le sud du Sahel, le Burkina Faso et maintenant le nord du Bénin. Malgré la force française Barkhane, 4500 soldats répartis sur 5 pays, c'est l'équivalent en superficie de l'Union européenne. Une zone donc très étendue, aux frontières extrêmement poreuses et très difficile à contrôler, comme l'a expliqué ce matin sur France Inter le spécialiste des questions de défense Pierre Servan.
On a une situation chaotique dans toute la région. Vous avez à la fois des groupes terroristes, des groupes mafieux terroristes. Vous avez aussi des personnes qui vont agir par opportunité, c'est-à-dire que s'ils voient passer un occidental, ils vont être tentés de le capturer parce qu'ils savent qu'ils peuvent le revendre. C'est pour vous dire qu'il faut décider très vite à partir du renseignement, et donc c'est une extrême difficulté. Depuis l'opération Serval et Barkhane, on a eu un effet boule de mercure, c'est-à-dire que le territoire qui était contrôlé par les djihadistes a été détruit et reconquis, ce qui est une très bonne chose. Mais évidemment, les djihadistes se sont répandus. Et effectivement, tant que les problématiques de développement, les problématiques sociales et économiques ne sont pas prises à bras-le-corps par les gouvernements locaux, eh bien, l'armée française, l'ONU, les éléments européens qui sont présents ne peuvent agir qu'à la marge. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit que nous sommes présents dans ces pays et que ces problématiques ne sont pas des problématiques qui sont à mesurer en années, mais en décennies.
Pierre Servent, ce matin sur Inter, avec Éric Delvaux. Aux soldats de la force Barkhane, il faut adjoindre les casques bleus présents au Mali et les armées nationales du G5 Sahel qui se mettent en place laborieusement, sans oublier bien sûr le soutien des renseignements américains grâce auxquels, en partie, les otages ont pu être localisés et suivis. En attendant, et pour ne pas rajouter aux difficultés, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a donc été très clair ce matin, il était sur Europe 1.
Je pense qu'il faut que tous ceux qui veulent faire du tourisme dans ces pays s'informent auparavant de ce qu'on appelle les conseils aux voyageurs, qui est mis en place et entretenu régulièrement par le Quai d'Orsay et qui indique les zones sûres, les zones à petit risque et les zones à gros risque. Or, la zone où étaient nos deux compatriotes était considérée depuis déjà pas mal de temps comme une zone rouge, c'est-à-dire une zone où il ne faut pas aller, où on prend des risques majeurs en y allant. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Et donc, vraiment, le message que je peux délivrer comme ministre des Affaires étrangères, c'est la plus grande précaution doit être prise dans ces régions pour éviter que de tels enlèvements n'aient lieu et pour éviter des sacrifices de nos soldats.
En rappelant que le guide béninois des deux touristes français avait été retrouvé mort le 4 mai dans ce parc national du Bénin, où ils effectuaient un safari. Et pendant ce temps, la guerre se poursuit en Libye, d'où les migrants tentent de partir de plus en plus nombreux, en prenant de plus en plus de risques. Les secours européens et les ONG étant à l'inverse de moins en moins nombreux dans le secteur. C'est ainsi que 3 migrants se sont noyés dans les eaux internationales au large de la Tunisie, où plusieurs dizaines d'autres sont portés disparus. Maureen Mercier à Tunis.
L'embarcation est partie de Zouara, ville libyenne, non loin de la frontière tunisienne. 16 rescapés seulement, alors que selon leurs témoignages, 60 à 70 personnes au moins se trouvaient à bord, sans doute même plus pour le Croissant Rouge tunisien. Selon ces informations, près de 70 migrants auraient même perdu la vie. 3 corps ont été retrouvés jusqu'ici. Les passagers tentaient de rejoindre illégalement l'Italie, déclaration du ministère de l'Intérieur tunisien. Aujourd'hui, la guerre entre le maréchal Haftar et le chef du gouvernement d'Union nationale de Sarraj à Tripoli, la capitale, provoque davantage de départs. D'une part, les forces armées sont concentrées sur le front de guerre, autant dire que les trafiquants ont les coups des franges sur les côtes. Ensuite, parce que des migrants qui travaillaient et comptaient rester en Libye fuient désormais le pays à cause du conflit. À l'aéroport de Tripoli, cette phrase d'une Nigérienne résonne, elle bénéficie d'un retour dans son pays via l'Organisation internationale des migrations. Si je ne parvenais pas à rentrer chez moi par avion, j'aurais dû fuir la guerre par la mer, pas le choix. Pour rappel, pratiquement plus aucun bateau humanitaire n'opère au large de la Libye. La plupart des naufrages s'y déroulent souvent dans le plus grand silence.
Maureen Mercier à Tunis.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
Du jamais vu s'agissant du patrimoine, le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame, adopté en première lecture par l'Assemblée, est une première par le mode de gestion des dons, la conduite des travaux, les dérogations aux normes habituelles de l'urbanisme. Jamais aucun monument historique n'avait donné lieu à une telle adaptation législative, ce dont a pu se féliciter le ministre de la Culture, Franck Riester, quand certains députés d'opposition dénoncent au contraire l'inutilité d'une loi d'exception. Ce n'est pas votre cas, Gilles Carré. Bonjour.
Bonjour. Non, ce n'est pas mon cas. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu vraiment à les limites passer d'une loi, utiliser les dispositions existantes, mais l'ampleur, la gravité de l'événement, la nécessité de faire des travaux d'une grande importance, de coordonner toutes les administrations, les dons qui ont afflué, tout cela. À mon sens, valider quand même une démarche législative.
Alors, vous êtes député Les Républicains du Val-de-Marne, rappelons-le, rapporteur spécial chargé du patrimoine à la Commission des Finances. Vous n'étiez pas favorable aux dérogations prévues par la loi au départ, hein, mais vous avez été rassuré, semble-t-il, par les explications.
Alors, j'ai été rassuré par l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi, et puis par les explications du ministre, et puis par un amendement qui a été voté et qui exclut le mot patrimoine des dérogations. Et quand on regarde de près de quelles dérogations il s'agit, elles concernent d'abord les installations de chantier, ensuite les alimentations en matériaux, les réglementations sur les matériaux si on doit utiliser des matériaux dans des carrières, et puis surtout une partie de ces, l'essentiel de ces autorisations dépendent en fait de la mairie de Paris. Et moi, je pars de l'idée que bon, la mairie de Paris est responsable, et si la mairie de Paris et l'État s'accordent entre eux, je pense que toutes les garanties seront assurées. En revanche, je veux insister sur un point, cette reconstruction doit se faire, à notre sens, à l'identique. Ce point est essentiel. Alors l'identique, ça ne veut pas dire que ce seront exactement les mêmes matériaux, je pense par exemple à la charpente, qui seront utilisés. Oui. On peut s'inspirer de ce qui a été fait à Reims après la destruction
ça,
de la
c'est,
Première
ça,
Guerre mondiale.
Ça, Gilles Carré, c'est un comité d'experts qui en décidera.
Exactement. Et je voudrais insister sur cet aspect expert. Nous avons en France parmi les meilleurs experts au monde, avec notre réseau d'architectes des bâtiments de France, de conservateurs des monuments historiques, des architectes de renom. Nous devons vraiment prendre le temps du diagnostic, faire appel à toute cette expertise qui existe dans notre pays, et puis reconstruire dans les meilleures conditions. Et j'avoue que moi j'ai été un peu inquiet quand j'ai entendu les mots geste architectural, concours international. Pour moi, comme pour beaucoup de Français, je crois, Notre-Dame, c'est notre histoire. Nous avons tous en tête la vision de Notre-Dame, son image. Notre-Dame, c'est un édifice religieux, mais c'est aussi c'est la France. Bon. Et donc, j'insiste sur ce point.
On y reviendra sur ces sujets-là. Un mot sur le surplus des dons. Vous souhaitez qu'ils soient qu'on en fasse quoi ? Qu'ils soient reversés à d'autres monuments qui en auraient besoin ?
Bon, d'abord, y aura-t-il surplus ? Parce qu'il y a des promesses de dons. Et la réalité des versements est très inférieure aujourd'hui. Donc il faut voir également quels vont être les travaux, quel sera le montant des travaux. Mais si il y avait surplus, bien évidemment, ce serait une bonne chose, avec l'accord évidemment des donateurs. Mais je pense que, notamment pour les entreprises, ce serait facile de recueillir cet accord, affecté à des actions sur le patrimoine. Sachez que sur les 87 cathédrales que possède l'État, chaque année, il n'y a que 30 millions d'euros de travaux. Que 30 millions. Par exemple, la cathédrale de Soissons, la Rosace, a été détruite il y a 2 ans par une tornade, je crois, et elle n'est toujours pas reconstruite. Et donc, vous voyez, on a un cruel besoin de crédits supplémentaires, et donc, s'il y a surplus, en accord avec les donateurs, bien évidemment, qu'il faudra le flécher sur notre patrimoine.
À contrôler par l'Assemblée ?
Oui, alors, est mise en place une commission qui associe la Cour des comptes et des parlementaires, et je me réjouis de ce dispositif.
Gilles Carrez, député Les Républicains du Val-de-Marne, je rappelle que le texte prévoit une déduction fiscale de 75% dans la limite de 1000 euros par an. C'est au Sénat maintenant d'examiner ce projet de loi. Ce sera fait d'ici la fin de ce mois. Merci beaucoup, Gilles Carrez. L'épilogue d'une longue procédure judiciaire dans l'affaire Lambert. Le médecin traitant de Vincent Lambert annonce qu'il interrompra ses traitements dans la semaine du 20 mai, sans plus de précision. Le cas de Vincent Lambert, maintenu en état végétatif depuis 10 ans à la demande de ses parents, est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. Le Conseil d'État avait validé le 24 avril dernier la décision médicale d'interrompre les traitements, qui sera donc mise à exécution sans attendre les ultimes recours intentés par les parents, notamment auprès d'un comité de l'ONU. L'épisode 26 des Gilets jaunes, et pour la première fois, rien n'est prévu ce samedi à Paris. Après bientôt 6 mois de mobilisation, c'est à Lyon et à Nantes que se sont donné rendez-vous les ultimes manifestants. Les centres-villes, comme il est désormais d'usage, ont été bouclés. À Nantes en particulier, les autorités redoutent la présence de casseurs. Les mesures de sécurité ont été renforcées. Le préfet Claude Darcourt invite les Gilets jaunes pacifiques à ne pas venir à Nantes.
Nous savons par un certain nombre d'enquêtes, de capteurs, que l'ultra-gauche a l'intention d'en découdre avec les forces de l'ordre, avec les bâtiments publics et avec l'activité commerciale. Nous savons que ce désir de revanche, il résulte d'une appréciation sur la manière dont le maintien de l'ordre a été assuré sur ce territoire. Nous savons qu'il y a l'utilisation de mortiers, ce qu'on appelle des pétards agricoles, et nous savons qu'un certain nombre de ce qu'on appelle ces mortiers ont été achetés dans les jours qui précèdent, et que l'intention des 5 à 600 ultras que nous avons recensés, c'est de les utiliser directement contre les forces de l'ordre. Ça n'est pas acceptable, ça n'est pas admissible. Nous saurons répondre à ce type de menace.
Le préfet de Loire-Atlantique au micro de France Bleu. Loire-Océan à Marseille. En attendant l'éventuelle manif ce samedi, des centaines de bénévoles ont commencé le nettoyage du vieux port, opération traditionnelle organisée par les plaisanciers chaque année. Et comme chaque année, les objets les plus divers sont remontés du fond de l'eau avec deux nouveautés cette année. Des barrières de protection utilisées dans les manifestations des Gilets jaunes, on y revient. Également des trottinettes électroniques, Olivier Martoc.
Toujours pas de cadavres, les pieds coulés dans le béton. En revanche, des dizaines de trottinettes électriques ont été remontées, ce qui inquiète Michel Gravelot, le président du CNTL, l'un des clubs nautiques à l'origine de cette opération de nettoyage.
Il suffit qu'il y ait un coup de vent et les trottinettes partent dans le vieux port. C'est très embêtant parce que les trottinettes électriques contiennent des batteries. Et ces batteries sont très polluantes.
Sylvain Champion fait partie de la trentaine de plongeurs qui remontent les objets. Un travail difficile et harassant.
Plus on enlève de choses et moins on voit de choses parce qu'en fait on remue la vase, donc ça devient impraticable quoi après. Ah, j'ai pas compté, mais ouais, non, énormément de poids entre les pneus, les batteries, les trottinettes, les vélos, les scooters, j'en passe, c'est des meilleurs. Et encore, on prend que les grosses pièces, hein, les petites pièces, on peut pas tout prendre quoi, donc on enlève vraiment les grosses pièces quoi.
À ses côtés, sur les pannes, des dizaines de bénévoles qui viennent prêter la main. Comme on dit sur les quais.
Il faut le faire. Ce qu'on a enlevé cette année ne sera plus là l'année prochaine. Plus on est nombreux, plus les gens se rendent compte que c'est bête.
Ce qui nous surprend, c'est que chaque année on fait le ménage et chaque année on retrouve aux mêmes endroits autant d'objets. Je crois qu'il y a à peu près 7 bennes qui sont pleines et on est étonné aussi par le nombre de batteries. Ça c'est très polluant, hein, les deux métaux toxiques.
Et pour la première fois cette année, un tri sélectif de tous ces objets, il y en a des tonnes, sera fait. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
En sport, en Ligue 1 de football, Saint-Étienne rate le coche. Les Verts battus à domicile 1-0 par Montpellier restent quatrième et toujours en course pour la Ligue Europa la saison prochaine. Mais ils sont maintenant sous la menace de Montpellier, justement. Et puis Brest, le retour après 6 ans de Ligue 2. Les Bretons, vainqueurs de Niort 3-0, reviendront parmi l'élite. Avec Metz, le champion de Ligue 2. En rugby, le troisième challenge européen pour Clermont. Après 3 finales perdues en Coupe d'Europe, il se console avec ce troisième titre de la petite Coupe d'Europe. Les Clermontois, vainqueurs 36-16 d'un duel franco-français face à La Rochelle. Le match se jouait à Newcastle. Et puis grande première dans l'histoire du handball féminin français. Metz, ce soir en Hongrie, dans le dernier carré de la Ligue des champions. Demi-finale contre les Russes de Rostov. Et si tout va bien, bien sûr, la finale dès demain soir. Allez, les conseils culture du week-end avec, pour commencer, un livre « Dans la jungle de l'info », livre de la collection « Cartooning for Peace », édité chez Gallimard, compilation de dessins de presse du monde entier, consacré à ce fléau moderne que sont les fake news et la désinformation, Alexandra Lacoune.
Et pour cette nouvelle compilation, la 13e de la collection, Cartooning for Peace a réuni une soixantaine de dessins issus de son réseau, 184 dessinateurs de presse du monde entier qui depuis 2006 sont trouvés dans l'association fondée par le prix Nobel de la paix Kofi Annan et Plantu, un partenaire essentiel à la défense de leur liberté d'expression, des interprètes de l'actualité qui, selon Plantu, sont de véritables lanceurs d'alerte.
C'est aux dessinateurs de presse qu'on doit d'être aux avant-postes. C'est lui qui sert avant tout le monde, comment ça va basculer. Et c'est pour ça que, quand déjà il y a plus de 10 ans, Musakart, le dessinateur de Cumhuriyet en Turquie, avait eu des ennuis, de la part d'ailleurs d'Erdogan, qui n'était pas encore président. Et je me suis dit, oula, si un jour il commence à prendre l'importance, celui-là, ça va pas être simple. Et les gens ne le savent pas. Et nous, dessinateurs, on le sait avant tout le monde. Et malheureusement, Musakart vient d'être réincarcéré pour terrorisme. C'est à se rouler par terre, sauf que c'est tragique.
Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. La phrase de Napoléon Bonaparte résonne à chaque page, devant chaque dessin.
Bah, regardez celui-là. Fake news, c'est un mec qui a une mèche blonde, qui vient des États-Unis, je dirais pas lequel. Bon, ce gars est dangereux. Et je pense que, finalement, on est à la veille d'une manipulation mondiale par les fake news. Et les dégâts, bonjour.
Parenté évidente, la préface de l'ouvrage est signée Christophe Deloire, de Reporters sans frontières.
Et parmi les conseils de cette fin de semaine, également le musée des arts décoratifs à Paris qui consacre une exposition aux drôles de petites bêtes. Revoir et voyager dans l'univers d'Anton Kriegs, grand auteur illustrateur de la littérature jeunesse contemporaine, au milieu de 500 peintures, objets d'art, dessins et estampes issus du fonds du musée et de la collection personnelle de l'artiste au musée des arts décoratifs à Paris jusqu'au 8 septembre. Et puis, on peut aller au cinéma, bien sûr, plonger cette fois avec Les Crevettes Pailletées, l'histoire d'une équipe de waterpolo gay et LGBT coachée pour les Gay Games par un vice-champion de natation qui avait tenu avant cela des propos homophobe, c'est sa punition en quelque sorte. Le réalisateur et le scénariste Cédric Le Gallo et Maxime Govard se sont inspirés d'une équipe hollandaise existante pour faire un film plein d'humour et percutant.
C'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le waterpolo.
3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes.
Voilà une histoire qu'on ne manquera pas de comparer bien sûr avec Le Grand Bain, le temps.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Cet après-midi, dans des températures légèrement inférieures aux moyennes, avec une quinzaine de degrés dans la moitié nord, 19 près de la Garonne, 22 pour le bassin méditerranéen, pluie et averses, parfois orageuses, vont circuler sur un grand quart nord-est du pays, entre l'Alsace, les Alpes, le Massif central, le centre Val-de-Loire, le bassin parisien et la Normandie. Sur la façade ouest, le ciel va s'éclaircir, mais c'est autour de la Méditerranée que le soleil sera le plus vaillant, avec un mistral, une tramontane et des rafales d'ouest entre le Var et la Corse qui vont commencer à se lever, vent qui va se renforcer demain, notamment pour le mistral, jusqu'à 110 km à l'heure en basse vallée du Rhône, avec des averses des Alpes du Sud à la Corse, et le matin sur les régions de l'Est. Ailleurs, les grisailles seront suivies d'éclaircies.